Chapitre 30. Luca pousse des gémissements sourds. Je peux pas lui en vouloir. Moi-même, je suis éreintée et je sais plus très bien où je suis. J'ai l'impression que nous errons dans la forêt depuis une éternité. Nous avons suivi la rivière vers les sentiers de Quad, vers mon frère l'assassin, vers peut-être rien du tout. Il est tard. Je le sais parce que j'arrête pas de consulter mon téléphone. Je l'allume et je l'éteins aussitôt, pour voir l'heure et bien sûr mes messages. Mais rien d'autre de Quincy ni de Rainy. Ce qui confirme ce que je soupçonnais depuis le début. Le texto de Quincy m'annonçant que mon frère avait été arrêté était un mensonge. Je m'en doutais. Ben voyons, ils appréhendent un jeune soupçonné d'avoir tiré sur je ne sais combien de personnes, et leur premier mouvement c'est d'appeler sa sœur pour une réunion de famille. Je fais attention à ce qui se dit pendant nos dîners. Je sais qu'on a le droit de mentir à un meurtrier présumé ou à sa fille adolescente, du moment que c'est pour la bonne cause. Mais le fait que j'ai sans doute raison ne me console pas. Ça me ferait plutôt de la peine. Et puis Quincy me manque, parce qu'il m'aime assez pour mentir et que ça force mon respect. Donc nous errons, Luca et moi, en suivant la rivière pour ne pas nous égarer tout à fait. Et pour disposer d'eau en abondance pour Luca, condamné à porter un manteau de fourrure malgré la chaleur. De temps à autre, je nous donne un bout à manger, mais avec parcimonie, parce que comme j'ignore où nous allons et combien de temps cela va nous prendre, je ne sais pas très bien comment rationner les vivres. Luca a l'habitude de dîner à 5 heures, pétante. Dès 4h30, 5h moins le quart, il rôde dans la cuisine en regardant ostensiblement sa gamelle. Où cache-t-il sa montre? Mystère. Mais il peut vous donner l'heure avec plus d'exactitude que n'importe quelle horloge parlante et depuis 1 heure environ, il est très agité. Même si je n'ai pas une notion du temps aussi précise que la sienne, mon estomac gargouille. Une pause pour partager une barre de céréales. Luca ne fait qu'une bouchée de sa moitié. J'essaie au moins de savourer la mienne, mais le déjeuner est déjà loin. Et nous sommes accablés de chaleur, de fatigue. Le découragement pointe. Il faut espérer un miracle, or ce n'est pas dans mon tempérament. Du bruit. Il me faut un moment pour en prendre conscience. Lointain, un bourdonnement de ruche. Mais je m'aperçois que le son est continu et que le volume augmente. Ça se rapproche. Un moteur. Un quad, à tous les coups. Nous avons donc rejoint les sentiers qui leur sont réservés. Aussitôt, me voilà électrisée, paniquée et terrifiée tout à la fois. Est-ce que c'est lui? Est-ce ce frère que je n'ai pas vu depuis si longtemps qui vient dans notre direction? Je l'ai retrouvé. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Salut, tu te souviens de moi? Non, ne tire pas! Je presse le pas, malgré moi. Je suis tellement nerveuse et épuisée qu'il faut que je sois fixée. Même si c'est horrible, même si j'ai tout faux et que mon frère, le dernier représentant de ma famille, me tire dessus, eh bien ce sera toujours mieux que de rester dans l'incertitude. Comme je suis une idiote qui agit sans réfléchir, tout ce que Quincy et Rainy m'ont toujours reproché, je commence à trottiner, Luca sur les talons, vers la source du bruit. Je rejoins le sentier juste au moment où un robuste quad noir arrive dans un hurlement de moteur et passe en trombe à côté de moi. Ma première impression? Il ne s'agit pas d'un petit jeune, mais d'un grand gaillard baraqué, coiffé d'un casque, qui roule à tombeau ouvert. Puis, 3 secondes derrière lui, un autre véhicule franchit le virage et passe comme un éclair. 2 potes qui s'en paient une bonne tranche. Manifestement, mon frère n'est pas le seul taré dans cette forêt. Et moi, je ne sais plus quoi faire. Je suis venue, j'ai vu, et je suis totalement au bout du rouleau. J'ai envie de rentrer chez moi à la tête basse et de subir mon châtiment. Rainy, au moins, me prendra dans ses bras. J'aurais bien besoin d'un câlin à l'heure qu'il est. Un grognement. Si grave qu'il me faut un moment pour l'entendre. Luca s'est raidi sur ses pattes à côté de moi. Il regarde fixement un buisson, un grondement sourd au fond de la gorge. Je tique et je m'apprête à le faire taire lorsque... je le découvre. Immobile comme une statue. Le visage trié de traînées marron et noir. On pourrait le confondre avec les broussailles ou l'arbre juste derrière lui, mais non. C'est mon frère. Face à moi. Une carabine. Je la vois sans la voir réellement. Dans la seconde qui suit, je tombe à genoux, je passe mes bras autour du cou soyeux de Luca et mon chien de garde se met à aboyer de bon cœur. Chut, chut. Il faut que je le fasse taire, que je le calme, mais je ne sais plus un mot de néerlandais, et j'en suis réduite à me cramponner à mon chien et à faire barrage de mon corps en suppliant. « Ne tire pas, ne tire pas! C'est pas la faute de Luca. C'est moi qui l'ai obligé à venir, mais c'est un bon chien. Le meilleur. Lui fais pas de mal, je t'en prie, je t'en prie. » « Clifford, » dit mon frère d'une voix éraillée, comme rouillée. Je hoche la tête sans comprendre. Ensuite, mon néerlandais me revient suffisamment pour donner à Luca l'ordre de se mettre au repos. Il obéit, mais je devine à la raideur de son corps entre mes bras qu'il ne me croit pas. Je garde la tête enfouie au creux de son cou. Si mon frère doit nous tuer tous les deux, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas savoir que j'ai conduit mon chien à la mort. Les secondes passent. Peut-être une minute entière. Comment savoir? Pour finir, je sens les muscles des épaules de Luca se détendre. Quand je relève la tête, je m'attends à ce que mon frère soit reparti. À ce qu'il se soit envolé de manière aussi spectaculaire qu'il est apparu. Mais il est toujours là. Il n'a pas bougé d'un pouce. Avec son visage peinturluré, difficile de distinguer ses traits. Je vois surtout le blanc de ses yeux. Je me demande comment il a appris à se grimer aussi bien, à connaître les techniques de survie en milieu naturel. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ignore sur ce frère. « Charla, » dit-il. « Telly. » Et pendant un long moment, plus rien. C'est Luca qui rompt le silence. Il gémit, me lèche le visage. Je me rends compte que je pleure et ça me gêne. Je m'écarte de Luca le temps d'essuyer mes joues. Quand je relève les yeux, mon frère est toujours là, les sentiers et les bois paisibles autour de nous. « Je te cherchais, » dis-je, parce qu'il faut bien que l'un de nous fasse le premier pas. « J'ai appris que t'avais de nouveaux parents. Des flics. T'aurais dû rester avec eux.
Je voulais pas que tu leur fasses du mal. Ni que... »
Je me force à le regarder dans les yeux. Je ne voulais pas qu'ils soient obligés de t'en faire. Il ne répond pas, il me regarde sans mot dire. Il tient mollement sa carabine. Je me demande si c'est avec cette arme qu'il a tiré sur ses parents, sur les gens de la station-service et sur les policiers. On dirait bien que mon grand frère a trouvé mieux qu'une batte de baseball. « Tes parents d'accueil ?» dis-je finalement.
« Pourquoi ?»
Il secoue la tête comme s'il essayait de nier ce que je viens de dire. « Et les inconnus à la station-service, qu'est-ce que tu fabriques, Telly ?»«
Tu devrais pas être là. »«
Mais j'y suis. »«
Rentre chez toi. »«
Sinon quoi ? Tu vas me descendre ?» Je me grandis, fière de paraître si brave, même si je tremble intérieurement. Mon frère me regarde encore et j'arrive enfin à déchiffrer son expression. Chagrin, horreur, tristesse. Une tristesse sans fond, infinie. C'est plus fort que moi, je tends la main vers lui. En un éclair, il entre en action. Pointe la carabine droit sur moi, d'un bras qui ne tremble pas. C'est sûr, il a fait du chemin en 8 ans. Luca recommence à gronder et seuls mes doigts serrés sur son collier le retiennent.
Merde, Charla!
Tu veux que je te trouve une batte de baseball?
Attends, rentre chez toi. Je plaisante pas. Éloigne-toi de moi.
Sinon quoi? Tu tires?
Tu comprends pas.
Explique-moi alors.
Éloigne-toi de moi.
Jamais.
Je vais tirer, je te jure, je vais le faire.
Vas-y.
Espèce de petite... Pense à ton bras, Charla. Tu veux que je te casse l'autre?
Maman, dis-je. Il reste interdit. Le canon de la carabine se met à osciller au bout de son bras hésitant.
« Quoi ?»«
Maman, » répétai-je. Il reste muet. Ça ne m'étonne pas. « Je me souviens de maman, » dis-je d'une voix ferme. « Je me souviens de cette soirée. Et je sais, Telly, je sais pourquoi tu m'as cassé le bras. Je n'attends plus. » Je lâche le collier de mon chien, j'avance droit au milieu des fourrés, droit vers la carabine. Je la repousse sur le côté, je pose mes mains sur les épaules de Telly et je lui dis ce que j'aurais dû lui dire il y a 8 ans. Je lui souffle au creux de l'oreille. « Je suis désolée, Telly. Tout était ma faute. Et je te demande pardon. » J'enlace la taille fine de mon grand frère et je le serre dans mes bras pendant qu'il sanglote. Telly s'écarte et se remet à marcher. Sans même lui poser la question, je trottine derrière lui, Luca sur les talons. « Où est-ce qu'on va ? »
N'importe où, pourvu qu'ils s'y attendent pas.
Pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un plan. On ne peut pas marcher indéfiniment, surtout par cette chaleur. Et c'est pas pour me vanter, mais mes nouveaux parents sont rudement forts. Quincy a même essayé de me faire rentrer en prétextant qu'on t'avait retrouvé. Ça finira par arriver.
Telly s'immobilise un court instant, me lance un regard.
Ils ont trouvé mon campement? C'est ça qu'il a dit?
Je ne me souviens pas.
Il hoche la tête, recommence à marcher à grands pas au bord du sentier.
Je parie que c'est ça. Après la découverte des corps de Frank et Sandra, ils ont dû appeler Henry. Il a dû remarquer qu'il manquait des affaires de camping et, le connaissant, il n'a pas pu s'empêcher de leur indiquer le lieu de campement préféré de Frank.
Il hoche une nouvelle fois la tête, plus pour lui-même que pour moi.
Tant mieux.
Tant mieux?
Est-ce que ça veut pas dire que la police a saisi tout ton matériel de camping? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je ne comprends rien à ce qu'il dit.
Il me reste une pomme, proposai-je timidement.
Telly porte un sac à dos bleu marine, à peu près de la même taille que le mien. Il paraît lourd, mais je suis trop froussarde pour lui demander s'il est plein de nourriture ou de munitions. Telly refuse mon offre d'un signe de tête.
De l'eau ?
Demande-t-il à la place.
Une bouteille.
Je commence à retirer une bretelle de mon sac à dos, mais il fait encore non de la tête et passe derrière moi. Je sens diverses secousses lorsqu'il ouvre la fermeture à glissière de mon sac et que le poids se déplace pendant qu'il fourrage à l'intérieur. Après une petite éternité, il revient en face de moi avec la bouteille en plastique. Moi, j'ai un bout de papier à la main. Mon numéro de portable griffonné sur une feuille de calepin. Je le lui tends sans un mot. Telly ne dit rien, le glisse dans sa poche. Il lance ensuite un regard vers Luca. En réaction, mon chien retrousse les babines et montre de longs crocs blancs. Loin d'en être effrayé, mon frère hoche la tête avec satisfaction.
Il paraît que c'est un chien policier.
À la retraite, genoux foutus.
Il peut faire de la randonnée.
Ce genre de marche ne lui pose pas de problème. Et l'exercice est bon pour lui. J'ai encore des friandises pour lui et jusque-là, il se désaltère en buvant dans les cours d'eau. T'as un plan d'action ?
Il ne répond pas, presse le pas.
Qu'est-ce que tu vas faire ? Continuer à arpenter la forêt en tirant sur le premier venu ? Ou est-ce que tu vas maintenant te contenter des forces de l'ordre ?
Tu rentres chez toi quand tu veux, m'informe-t-il.
Mais je sais où tu es.
Non, tu sais seulement où j'ai été à un moment donné. C'est comme le campement, je savais que la police le trouverait. Je comptais bien là-dessus, en fait. Parce que maintenant, ils concentrent leurs efforts là-haut alors que je suis ici.
Il me jette un coup d'œil.
Tu t'y connais en technique d'enquête ?
Comme ci, comme ça, réponds-je évasive. Des trucs dont j'entends parler au dîner.
Moi, je sais ce que j'ai lu dans des livres. Quand elle recherche un individu, la police commence par interroger les gens qu'il fréquente habituellement. Mais dans mon cas, il n'y a personne. Alors elle a dû se retourner vers ma conseillère de probation, Ali. Vers Henry, bien sûr. Et vers toi, conclut-il en me lançant un regard.
Mais je ne sais rien. Puisque 8 ans ont passé, mais je ne le précise pas.
Comme tu dis, répond-il en continuant à marcher dans mon pas.
Je savais pas ce que t'étais devenu, dis-je finalement. J'ai du mal à ne pas me laisser distancer. Telly a bien poussé. Alors que je suis tout en bras et en jambes, lui, à 17 ans, est devenu un vrai gars. Grand, fort, peut-être beau, mais c'est difficile à dire avec le maquillage qui recouvre tout son visage. Je me demande s'il ressemble à notre père. Encore un point sur lequel je serais incapable de me prononcer, étant donné que je n'ai pas vraiment de souvenirs de nos parents. Dans mon enfance, mes premières années, Telly était le centre de mon univers. Le grand frère qui s'occupait de moi. Celui dont je croyais qu'il ne me quitterait jamais. Quand je suis sortie de l'hôpital, la dame m'a emmenée dans la première famille d'accueil. Je pensais que t'y serais. Je suis entrée pratiquement en courant tellement j'étais impatiente de te voir. Mais t'étais pas là.
Telly ne dit rien.
On t'a envoyée dans une autre famille ?
Peu importe. Bon sang, Charla, c'est si vieux tout ça.
Mes yeux piquent de nouveau. Je me retiens de pleurer. C'était ce que je voulais, retrouver mon frère, être avec lui, voir de mes propres yeux ce qu'il était devenu. Eh bien, j'y suis. Pour une fois dans ma vie, j'ai réussi à mener un projet à bien, je ne vais pas pleurer maintenant. J'ai dit à la police, à la dame de l'hôpital, que tu nous avais protégés. Que papa avait un couteau et que c'était lui qui avait commencé. Et le jour de ma sortie, la dame m'a dit que tout irait bien pour toi, que tu n'avais pas de problème. Telly s'arrête.
si net que je le dépasse de 3 pas avant de pouvoir freiner mon propre élan.
Oublie tout ça, je suis plus garçon, ça n'a pas d'importance.
Dit l'ado qui tire sur tout ce qui bouge.
Ça n'a aucun rapport.
Alors ça a rapport avec quoi? T'as tué tes parents d'accueil. Des gens bien, m'ont dit Rainy et Quincy. Tu les as abattus dans leur lit.
C'est ce que tu crois?
C'est ce qu'on m'a dit.
Qu'est-ce que tu fous ici?
Pardon? Le changement de sujet me prend à contre-pied.
Qu'est-ce que tu fous ici? Tu veux me sauver? Comme la dernière fois?
Ces accents railleurs me blessent au plus profond de moi. Je me mets à trembler sans pouvoir me contrôler.
Tu veux savoir ce qui arrive à un petit garçon de 9 ans qui tue ses parents à coups de batte, qui casse le bras de sa petite sœur? Ils ont des foyers pour tous ces gens de l'assistance. Même pour les monstres dans mon genre. Et c'est là que je suis allée et que j'ai fait mon temps. Seule, isolée. Et tous les soirs, quand je m'endormais, c'était l'occasion de rêver une fois de plus de notre cher papa. Et de maman. Sauf que parfois, dans mes rêves, papa arrive à ses fins. C'est nous qui mourons et lui qui gagne. D'autres fois, c'est maman qui attrape le couteau et qui nous pourchasse. Mais il y a une chose qui n'a jamais changé. Ton cri. Et c'est ça qui m'a réveillée toutes les nuits pendant des années. Ma petite sœur qui crie parce que je lui ai fracturé le bras avec une batte de baseball. Il a le souffle court. Moi aussi. Rentre chez toi, Charla. Je sais pas ce que t'espères, mais c'est trop tard pour nous deux.
Il n'a plus l'air en colère. Défait, plutôt. Je fonds de nouveau en larmes. Tu me manques, dis-je tout bas.
Pourquoi? Ça sert à rien.
Je savais pas qui appeler. À qui demander? Cette première maison, c'était pas un endroit pour moi. Ni la deuxième, ni la troisième ou la quatrième. Mais quelque chose me dit que Telly connaît ça par cœur. Il a sa propre liste.
T'as fini par atterrir dans une bonne famille.
Il s'était passé trop de temps. Je voyais plus comment demander de tes nouvelles.
Tu sais quoi, Charla? Moi aussi, j'ai fini par atterrir dans une bonne famille.
Où ça?
Chez les Duval.
Mais...
Tu m'as entendu. C'était des gens bien. Ils méritaient pas ce qui leur est arrivé.
Alors pourquoi...
Franck voulait que je te retrouve. Il pensait que si je voyais que t'allais bien, que tu faisais ton petit bonhomme de chemin, je pourrais en faire autant.
Les mots me manquent. Telly se retourne, plante son regard dans le mien.
Est-ce que tu vas bien, Charla? Est-ce que tu fais ton petit bonhomme de chemin?
Je suppose.
Est-ce que tu rêves de nos parents? Est-ce que tu te réveilles en hurlant la nuit?
Non.
Tu sais, quelque temps après mon arrivée chez les Duval, j'ai commencé à faire ce rêve, un fantasme plutôt. J'allais avoir 18 ans. J'allais construire ma vie, comme il disait. Et alors je serais venue te chercher, Charla. Super grand frère aurait encore une fois volé au secours de sa petite sœur. T'aurais été dans un de ces foyers sordides. On en a tous les deux connu, pas vrai?
Je confirme.
Mais je serais venue, je t'aurais tiré de là. On aurait de nouveau formé une famille. Cette fois-ci, j'aurais réussi.
Je reste sans voix.
Mais tu vas bien, n'est-ce pas? Tu as de bons parents, à ce que m'a dit ma conseillère. Ils vont t'adopter, te donner une vraie famille.
Je baisse la tête, honteuse, sans trop savoir pourquoi.
Tant mieux, Charla. C'est génial que t'ailles bien. Tu vas pouvoir t'en sortir sans moi.
Telly, j'essaie, mais en fait, je ne vois pas quoi répondre.
« Va-t'en, » dit-il. « Garde ton chien près de toi, tes nouveaux parents aussi. Si t'as un peu d'affection pour moi, sois heureuse. Profite de la vie. Comme ça, je saurai qu'au moins l'un de nous deux a réussi. »
Il se retourne et repart avec des enjambées si longues, si rapides, que j'arriverai jamais à le rattraper. Ses derniers mots volent jusqu'à moi, lancés par-dessus son épaule.
« Désolée, Charla. T'as tes parents policiers, et moi j'ai encore au moins une personne à tuer. »
Je ne peux pas suivre. Mon frère me quitte. Il disparaît dans les bois, silhouette solitaire armée d'une carabine. Je reste là un long moment, Luca à mes côtés, toujours aux aguets. J'ai la gorge nouée, comme un poids sur la poitrine. J'arrive pas à me défaire du sentiment que c'est la dernière fois que je parle à mon frère. Que je ne le reverrai jamais.
Mon épaule me lance. Ça m'est égal. Je donnerai mon autre épaule, je donnerai n'importe quoi, je crois. Mais cela ne sert à rien. Parce qu'il est parti et que je suis encore trop petite pour le suivre. Les minutes se succèdent dans la forêt silencieuse. Pour finir, je sors mon portable de ma poche. Je l'allume et je dis ce que j'aurais dû dire il y a des heures. Rainy, c'est Charla. S'il te plaît, je voudrais rentrer à la maison.